Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, depuis le 27 avril et jusqu'au 9 mai, les Turcs de l'étranger peuvent voter. Ils sont en avance sur leurs concitoyens de Turquie qui sont appelés à élire leur président et leurs députés le 14 mai prochain. En Allemagne, où se trouve la plus grande diaspora turque, 1 400 000 personnes peuvent se rendre aux urnes. Par le passé, ces électeurs y ont adoubé le président Erdogan. Mais cette année, les résultats pourraient être plus serrés. À Berlin, le reportage de Delphine Nerbollier.
Nous sommes à Kreuzberg, le quartier turc de la capitale allemande. C'est ici, sur les bords du canal de Baybar, que se tient deux fois par semaine un marché de fruits et légumes où la langue allemande s'entremêle au turc. Dans les allées colorées, l'élection présidentielle du 14 mai laisse peu de monde indifférent. À l'image d'Eyüp, ce retraité est arrivé il y a 40 ans à Berlin et il va de nouveau voter pour le parti AKP, celui du président Erdogan.
L'AKP, bien sûr. Les raisons sont nombreuses. Erdogan travaille. Ce qu'il fait, il le fait bien. Et puis, depuis qu'il est au pouvoir, nous sommes respectés, nous les Turcs, en Allemagne. Ce n'était pas le cas avant. C'est positif. Vous dites que l'économie ne va pas bien en Turquie. Vous pensez qu'elle est meilleure en Allemagne? Non, elle est partout mauvaise. Si Dieu le veut, Erdogan gagnera.
Un peu plus loin, derrière un stand de légumes, entre deux clients, Fouad est moins enthousiaste. Ce maraîcher ne veut plus voter pour le parti présidentiel. Pour lui, la situation en Turquie a changé.
Je ne vais pas voter, je vais m'abstenir. La raison, c'est le manque de justice. On le voit partout. Regardez par exemple tous ces jeunes diplômés. Ils veulent être profs en Turquie. Ils ne reçoivent pas de poste et arrivent ici en Allemagne. La situation économique en Turquie est très mauvaise. Moi, j'ai voté AKP la dernière fois. C'était un accident. Cette fois, je dis que le meilleur gagne, que le pays prospère et que le vainqueur pense à notre jeunesse.
Le vote du 1,5 million d'électeurs turcs d'Allemagne est très symbolique pour l'actuel président Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans. Et pour cause. En 2018, le chef d'État a obtenu dans ce pays près de 65% des suffrages, contre 52% en Turquie. La raison de ce succès est la présence d'une communauté conservatrice et religieuse originaire d'Anatolie, arrivée en Allemagne en tant que travailleurs invités depuis les années 60. Peu ou mal accueillis dans ce pays, ils conservent des liens très forts avec la Turquie. Hacı Halil Uslucan travaille au Centre d'études turques d'Essen. Il confirme le rôle central joué par Recep Tayyip Erdogan auprès de cet électorat.
Il est le leader, il est le point d'identification du parti. De plus, les gens le voient tous les jours à la télévision. Cela le rend encore plus digne de confiance que tous les autres candidats. Il ne faut pas oublier que l'AKP a d'autres avantages en Allemagne sur les autres partis. Ce sont les quelques 900 mosquées affiliées au réseau d'ITIB qui sont liées au gouvernement turc. Le parti au pouvoir peut donc faire passer son idéologie auprès des électeurs conservateurs beaucoup plus facilement que les partis de gauche qui sont moins bien organisés.
L'opposition, justement, se relève les manches. De retour à Kreuzberg, un groupe de militants du parti CHP fait du porte-à-porte auprès des commerçants. Reconnaissables à leur gilet rouge, ils font la promotion du candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Soutenu par une alliance de 6 partis, il a des chances réelles de détrôner l'actuel président. Pour Kenan Kolat, l'opposition pourra gagner, mais pour cela, il faut que les gens aillent davantage voter.
Si le taux de participation est élevé, nous gagnerons. À l'heure actuelle, nous perdons parce que le taux de participation est faible en Allemagne. Les Turcs de l'étranger ne sont que 50% à voter, contre 90% en Turquie. Donc notre but est de pousser les gens qui ne votent pas à aller aux urnes. Et puis on explique comment ça marche en pratique. Vous le voyez, le bulletin de vote est très long, il fait près d'un mètre. On explique donc comment voter.
Kenan Kolat se veut donc confiant, même si l'électorat local est très conservateur. L'ambiance est meilleure selon lui cette année que lors des précédents scrutins.
Je le constate auprès des gens. Avant, on était plus souvent critiqués. Cette année, on l'est moins. Et les gens qui votent pour nous le disent plus facilement. C'est la marque d'un changement. Mais bien sûr, ce changement est plus grand en Turquie même. Ici, il prend plus de temps, mais nous allons quand même gagner.
Le vote du 1,5 million d'électeurs turcs d'Allemagne n'est généralement pas déterminant pour les résultats en Turquie, mais il pourrait l'être cette année si les résultats sont aussi serrés qu'annoncés.
Il faut du temps, du temps, du temps. Tourner la page, ça prendra un moment. Il faut du temps.
Visiter la capitale belge en regardant l'histoire et ses dimensions politiques en face. En Belgique, le collectif Mémoire Coloniale organise depuis 10 ans des visites décoloniales de Bruxelles. L'association qui regroupe des militants antiracistes et des chercheurs décrypte pour les visiteurs l'histoire des nombreuses plaques, noms de rues et monuments qui font référence à la colonisation belge au Congo. Laure Broulard.
Comme chaque jour, la grande place de Bruxelles est noire de monde. Partout, des guides agitent des petits drapeaux pour rassembler les groupes de touristes. Ils déclament l'histoire de la plus célèbre place de Belgique avec ses pavés, ses façades aux dorures inimitables et la flèche de l'hôtel de ville qui culmine à 96 mètres de haut. Mais c'est une autre histoire qu'un petit groupe d'étudiants venus de Louvain s'apprête à découvrir. Leur guide s'appelle Aliou Baldé, il est membre du collectif Mémoire Coloniale.
Dans cet hôtel de ville en 1889, il y a un personnage qui a été reçu ici avec les grands honneurs, c'est un certain Henry Morton Stanley. C'est un de ces gars qu'on dit qu'il a exploré. N'est-ce pas ? Nous autres, nous sommes les découverts. Et notre histoire commence évidemment à partir du moment où ces gars ont mis le regard sur nous.
Le journaliste Henry Morton Stanley a en effet exploré l'Afrique centrale pour le compte du roi Léopold II, ouvrant la voie à la création de l'État indépendant du Congo, qui devient la propriété privée du souverain belge à partir de 1885. Une période marquée par l'exploitation féroce des ressources du pays et de sa population, réduite au travail forcé pour récolter toujours plus de caoutchouc dans la forêt équatoriale. Le pouvoir colonial ira jusqu'à mutiler les Congolais récalcitrants. Les images de leurs mains coupées feront le tour du monde et en 1908, les pressions diplomatiques poussent Léopold II à lâcher le Congo qui devient alors une colonie belge jusqu'à l'indépendance en 1960. Prochaine étape, la rue Tabora, du nom de cette ville tanzanienne où les troupes coloniales belges, composées de Congolais, ont vaincu les forces de l'Empire allemand en 1916. Une bataille décisive pour la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, direction la rue des Colonies, inaugurée en 1909, un an donc après l'annexion du Congo par Bruxelles.
C'est une des nombreuses rues en hommage à la colonisation. L'administration coloniale a besoin de jeunes. A besoin de jeunes qui veulent faire des carrières coloniales. Et pour inciter des jeunes à faire des carrières coloniales, il faut nationaliser la question coloniale. Jusque-là, c'était perçu comme un projet personnel de Léopold II, mais cette fois-ci, il fallait en faire une question belge. Et pour en faire une question belge, on utilise l'espace public belge. Donc demander à décoloniser l'espace public, c'est pas tant effacer l'histoire, c'est changer de mémoire sur la colonisation.
Alors que faire aujourd'hui des vestiges de la colonisation à Bruxelles ? Le débat est ouvert avec les étudiants.
Je pense que le problème principal, c'est l'ignorance qu'on a de l'espace public et de son histoire. Et rien que cette visite, j'habite à Bruxelles depuis que je suis née, je sais rien quoi. Alors que c'est quand même assez important, ça a une histoire, c'est un espace public pour une raison, parce qu'on met en avant certaines choses et qu'on a décidé de mettre en avant et que je savais pas ça du tout.
Il y a moyen de faire des gros panneaux pour que tout le monde soit au courant de qui sont ces personnes, en quoi elles ont contribué à la colonisation. On peut les bouger, les rassembler ensemble dans des lieux, dans des musées, histoire de pas les valoriser, parce que le problème de ces statues pour l'instant, c'est qu'elles continuent à rendre hommage à toute cette histoire.
La question de la décolonisation des villes a fait irruption dans le débat public en 2020, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. La mort de l'afro-américain George Floyd fait alors des remous jusqu'en Belgique. Des manifestations antiracistes sont organisées à Bruxelles. Plusieurs statues du roi Léopold II sont vandalisées et la polémique économique grossit, tout comme les rangs des clients des visites guidées des coloniales. Aujourd'hui, le collectif organise 2 à 3 tours par semaine au printemps et en été pour les curieux, mais aussi pour des écoles et même des entreprises. Geneviève Caninda en est la coordinatrice.
On a commencé avec 3 parcours dans l'espace public bruxellois. Et au fur et à mesure des années, on a poursuivi le travail justement de recherche de traces coloniales dans l'espace public bruxellois et même belge, parce que maintenant on va en dehors de Bruxelles. Et maintenant on est à peu près 17-18 parcours en fait.
L'année dernière, un groupe de travail mandaté par la ville de Bruxelles pour réfléchir à la décolonisation de la capitale belge a rendu ses recommandations. Il propose par exemple de dissimuler, de retirer, voire de fondre certaines statues de Léopold II, de quoi susciter de vives polémiques au sein de la classe politique belge, notamment chez les nationalistes flamands. Mais Geneviève Caninda note que plusieurs communes bruxelloises ont déjà commencé à questionner leur héritage colonial en procédant au cas par cas.
Par exemple, une approche où il y a eu un retrait de l'espace public, c'est la statue Émile Storms. Ici à Ixelles, Émile Storms, qui est connu pour avoir tué et découpé la tête du chef Lusinga et l'avoir ramené ici. Il avait un buste qui trônait Square de Meuse à Ixelles. L'année passée, la commune d'Ixelles, qui avait dit qu'elle réfléchissait sur la question, a retiré cette statue de l'espace public.
Autre option, l'ajout d'hommages à des figures historiques congolaises. Depuis 2018, Bruxelles possède un square Patrice Lumumba. Il doit accueillir d'ici un an un monument en hommage à ce héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais pour les militants, le combat est loin d'être terminé. De nombreuses statues posent encore problème. Des noms de rues font encore référence à des personnages accusés de graves crimes pendant la colonisation. Surtout, la commission parlementaire chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique s'est soldée sur un constat d'échec fin 2022. Les différents partis du gouvernement fédéral ont notamment buté sur la question des excuses.
Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Et toi ma chérie, je serai fusillé demain, mais vive la résistance.
C'est un nom qui commence lentement à retrouver sa place dans l'espace public, mais aussi dans l'histoire en Italie. Giorgio Marincola, parfois appelé le partisan noir, cet italo-somalien fait partie des résistants italiens tués par les troupes nazies en 1945. Cécile Debarge nous raconte son histoire.
Près de 80 ans après sa mort, Giorgio Marincola donnera son nom à une future station de métro à Rome, la capitale italienne. Avicchio, une commune de 8000 âmes nichée au cœur de la Toscane, c'est la petite bibliothèque municipale qui a récemment installé une plaque commémorative en l'honneur du partisan italo-somalien. Des initiatives qui n'ont rien d'anecdotique, tant l'histoire des résistants noirs est encore mal connue en Italie. Giorgio Marincola a pourtant largement mérité sa place au panthéon des partisans italiens. Décoré à titre posthume en 1953 de la médaille d'or de la valeur militaire, il a été tué à 22 ans alors qu'il combattait contre les nazis pour la libération de la région du Trentino. Mais son nom était tombé dans l'oubli. Son neveu, Antar Marincola, l'en a sorti en publiant en 2008 le premier ouvrage italien à documenter la vie des partisans noirs et donc l'histoire de son oncle. Comme Giorgio Marincola, ils sont des dizaines de résistants africains à avoir payé de leur vie leur engagement auprès de l'Italie et à avoir été rayés des livres d'histoire du pays.
Que vous a rapporté le prix Goncourt? Je ne veux pas dire au point de vue pécuniaire, oui, mais pour vous-même, pour l'évolution de votre œuvre, pour vos relations avec votre public.
Outil important de promotion de la francophonie, le Goncourt s'exporte hors de France. Le Portugal vient de rejoindre les 34 pays qui désignent leur choix Goncourt, un prix symbolique. 8 universités portugaises ont été sélectionnées pour lire 4 ouvrages dans la liste du Goncourt 2022. Nous allons à Lisbonne retrouver Marilyn Darcy, notre correspondante. Marilyn, comment cela se passe-t-il?
Les étudiants ont créé des clubs de lecteurs sous la direction de leurs professeurs. Puis, 8 délégués ont été invités par l'ambassade de France à délibérer pour choisir un vainqueur parmi les 4 livres sélectionnés. Ils ont bénéficié de l'aide de 2 écrivains lauréats du Goncourt, Tahar Benjelloun et Leila Slimani, qui a présidé le jury. L'objectif de ce choix international est de faire connaître la littérature et la langue française. Il suscite un véritable engouement dans des pays comme ceux de l'Orient, comme l'a rappelé Tahar Benjelloun. Cette distinction, le choix Goncourt international, a été fondé par l'Institut français de Cracovie, en Pologne, en 1998.
Et quel livre l'a emporté finalement ?
Eh bien, c'est le mage du Kremlin de Giuliano D'Ampoli, candidat malheureux au concours, mais distingué du Grand Prix de l'Académie française la même année, en 2022. Ce livre, qui a été rédigé avant l'invasion russe en Ukraine, s'inspire de la vie de Vladislav Surkov. Le personnage, le mage du Kremlin, sert de fil conducteur à l'histoire contemporaine de la Russie. Il a été traduit en portugais dès novembre de l'an dernier. Les trois autres ouvrages en lice étaient « Vivre vite » de Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, qui vient d'être traduit en portugais, également Les Presques Sœurs de Chloé Corman et Une Somme Humaine de Mackenzie Orcel. Les jurés ont brillamment défendu leur choix et la littérature française a gagné en visibilité au Portugal.
Merci Marilyn, à bientôt.
Je mens, mais mentir toujours bien. Je mens comme ça pour rien. Je mens, rends bien. Compte, je mens.
En Belgique, la secrétaire d'État à l'égalité, Sarah Schlitz, a démissionné il y a deux semaines. Elle a mal géré des faits compromettants sortis par l'opposition, mais certains estiment qu'une démission, c'est trop cher payé. C'est vrai qu'en Europe, le mensonge en politique n'est pas perçu partout de la même façon. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Au départ de l'affaire Sarah Schlitz, un logo, son logo, des associations subventionnées par son administration mentionnaient sur leurs affiches, leurs visuels, le nom de la secrétaire d'État écolo. Devant le Parlement, elle a nié les faits. L'éditorialiste Martin Buxan tente de synthétiser.
Alors on va pas retracer toute l'affaire Schlitz, mais en résumé, la secrétaire d'État avait subsidié des associations en échange du fait que celle-ci fasse sa promotion électorale en apposant son logo. Madame Schlitz avait indiqué devant le Parlement fédéral que c'était pas vrai. Or, il s'avère qu'elle a menti aux députés. Elle dit, elle, qu'elle a manqué de clarté, je cite. Enfin, placé devant ses contradictions, son cabinet ministériel a comparé un député d'opposition à un nazi.
Quand on en vient à l'argument du nazi, c'est souvent mauvais signe. La secrétaire d'État a démissionné, coupable d'avoir utilisé les fonds publics pour sa pub, puis d'avoir menti aux députés. Est-ce si grave ? Certains en Belgique estiment que non, qu'elle est victime de misogynie. Les hommes font parfois bien pire, sans aller jusqu'à quitter leurs responsabilités. Peut-être. Enfin, ça dépend aussi de plein d'autres choses. Du poids politique de la personne prise la main dans le sac, de la vigueur de l'opposition à instrumentaliser l'erreur, du soutien de son propre parti, de la culture politique aussi. En Allemagne, par exemple, il y a 10 ans, Annette Schavan, ministre de l'Éducation, a dû démissionner. Sa faute ? Elle avait triché pour sa thèse de philosophie. Ça a choqué tout le monde, même les étudiants.
Je trouve qu'en tant que ministre de l'Éducation, ça n'est pas possible. Elle doit absolument démissionner.
En Allemagne, les titres universitaires sont très importants. Être docteur, ça ne peut pas s'usurper. Dans d'autres pays européens, cette affaire de mensonge sur son diplôme, comment dire, ça ne pèse pas grand-chose. Le commentateur italien Andrea Scanzi réfléchissait au grand menteur de la politique de son pays.
Oh, il y a l'embarras du choix. Qui est plus menteur que Berlusconi ? Montanelli disait que Berlusconi était le politicien le plus menteur parce qu'il croyait à ses propres mensonges. Renzi, c'est un serial menteur. Le mouvement 5 étoiles a dit un paquet de mensonges. Salvini ment du soir au matin. Et Meloni a fait partie de ceux qui ont dit au Parlement que Ruby était la nièce de Moubarak, un des plus grands mensonges du siècle.
Ruby, c'était une mineure qui participait aux soirées très privées de Berlusconi. Elle s'était fait arrêter par la police en 2010 et pour qu'elle soit relâchée, Berlusconi avait expliqué aux carabinieri qu'elle était la nièce du président égyptien de l'époque, Hosni Moubarak. Plus tard, le Parlement a voté pour confirmer que Berlusconi était de bonne foi et Meloni a participé à cette pitoyable mascarade. Après ça, elle est demandée à des Italiens si c'est grave une ministre qui a plagié pour sa thèse. En France, on est aussi plutôt indulgent. On a quand même eu un ministre du budget qui avait un compte en Suisse pour placer l'argent qui provenait de sa fraude fiscale. Jérôme Cahuzac.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je demande donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale.
Il avait lui aussi menti aux députés en 2012. Mais de rien, il a fini par démissionner 3 mois plus tard, puis par avouer la vérité à la justice. Le plus étonnant, c'est qu'à l'époque, Mediapart, qui avait révélé l'affaire, a été très critiqué pour l'acharnement de ses journalistes. Certains étaient à deux doigts de les traiter de nazis, comme le cabinet de la secrétaire d'État belge.
Accent d'Europe à la réalisation, Donatien Cahu. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez vous abonner. À bientôt.